Allô Radio Immo, les auditeurs ont la parole.
Bonjour, bienvenue sur Radio Immo, bienvenue dans Allô Radio Immo, l'émission qui donne la parole aux auditeurs. Voilà, on répond à toutes vos questions que vous nous posez sur nos réseaux, le Facebook Radio Immo, le LinkedIn aussi, l'Instagram, la page Facebook, voilà. On y répond chaque semaine avec nos experts. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir deux experts à mes côtés sur le plateau. Christine Pelos,
bonjour,
fondatrice et gérante de Home Like Home.
Exactement.
Une équipe féminine de chasseuse d'appart, c'est ça ?
C'est ça, depuis 2003.
Oui, et vous êtes bien développée, hein, puisque maintenant, vous avez des agences à Paris, évidemment, le Grand Paris, Aix-en-Provence, Bordeaux, Lyon, Lille, Marseille, Nantes, Nice, en Normandie et à Le Perche.
Et dans Le Perche, exactement.
Dans Le Perche, oui, pardon. Ça s'est très, très bien développé.
Oui, parce qu'en fait, on a su comprendre que le marché parisien était certes dynamique, mais que les gens allaient de plus en plus avoir envie d'acheter en province, aussi bien pour de la résidence principale, de l'investissement.
Ben, on en parlera justement.
Que de la résidence secondaire.
Tout à fait. Et à ma gauche, Gaëtan Matet, cofondateur de Bernie. Bonjour, vous allez
bien ? Oui, merci Bérénice pour l'invitation.
Alors, Bernie, une agence immobilière qui propose une offre de gestion locative à revenus garantis.
Oui, absolument. Donc, on propose aux propriétaires de devenir locataires de leur bien immobilier et à partir de ce moment-là, de leur garantir le revenu, de leur verser un revenu quoi qu'il arrive.
Ça, c'est très intéressant, hein. Surtout en ce moment. Bon,
merci.
On va commencer tout de suite avec les questions de nos auditeurs. Il y en a pas mal. On va commencer avec vous, Christine. Alors, première question, quel est le rôle d'un chasseur immobilier par rapport à une agence immobilière classique ?
Alors, c'est un métier qui est complètement complémentaire puisque le chasseur immobilier s'intéresse à l'acheteur alors que l'agence s'intéresse au vendeur. En fait, c'est la base.
La subtilité.
Le chasseur immobilier, en fait, s'apparente à un chasseur de tête, sauf qu'au lieu de chasser des hommes, vous chassez des appartements. Oui. Et en fait, on s'adresse à... Donc, c'est un métier de service et on s'adresse à des personnes qui soit n'ont pas le temps, soit habitent pas sur place. Et l'idée, c'est qu'on ait leurs yeux, on visite à leur place. Eux sont derrière leur ordinateur et... On visite l'appartement, la maison, avec ses défauts, ses qualités, et on est très exhaustif sur la qualité du produit. Donc on n'est pas là pour valoriser un bien, puisque nous on n'est pas du côté du vendeur, mais on est vraiment les yeux de l'acheteur.
D'accord. Donc c'est la différence. Donc vaut mieux se tourner vers vous si on.
Nous en fait on n'a pas de produit à la vente à la différence d'une agence. Nous on est vraiment.
Vous répondez à la demande des gens.
Exactement, exactement.
Autre question alors pour vous, Gaëtan. Comment être sûr, donc là c'est côté propriétaire, hein, comment être sûr de ne pas tomber sur un locataire qui ne paye pas son loyer ? Comment bien choisir son locataire ? Alors ça c'est une frayeur chez beaucoup de propriétaires. Comment trouver le bon locataire ?
C'est vrai que
ça fait peur.
Ouais, c'est en plein dans notre métier parce qu'on a besoin de trouver des locataires chez Bernie qui... prennent soin du bien et qui payent correctement leur loyer. À partir du moment où on ne paye pas leur loyer, nous, on continue de payer notre propriétaire, donc on perd de l'argent.
Oui, parce que vous êtes bailleur, du coup.
Exactement, oui.
Donc vous avez, j'imagine, des assurances. Mais alors, comment trouver un bon locataire ?
Oui, voilà, donc
comment
on y fait attention. Le premier point, le point le plus simple, il faut simplement s'assurer que le locataire est capable de payer son loyer tout en pouvant vivre correctement. Et donc pour ça, il y a un document qui est crucial. C'est l'avis d'imposition sur le revenu. Il y a beaucoup de propriétaires qui commencent à louer des biens et à gérer eux-mêmes leurs biens qu'ils ne savent pas, mais l'avis d'imposition sur le revenu, c'est un document qu'on peut vérifier. Donc on peut aller sur un site d'État, c'est public. Mm-hmm. On prend deux informations qui se trouvent sur l'avis d'imposition qui a été fourni et on peut vérifier que le revenu fiscal de référence est le bon, que l'état civil des personnes est aussi le bon. Et donc ça permet d'être sûr de la personne qu'on a en face et d'être sûr des revenus. Le seul point négatif de ce document-là, c'est qu'il peut y avoir un peu de différé. Là, par exemple, en ce moment,
c'est en 2019,
on est fin mai 2021 et on a les revenus de 2019, l'avis d'imposition 2020 sur les revenus de 2019. Donc il y a un petit décalage et donc c'est là qu'il faut demander quelques documents supplémentaires pour essayer de comprendre quelle est la situation
actuelle. Parce que quelqu'un qui a eu une promotion depuis ou un nouveau job ou
Voilà, c'est ça. Alors le document qu'on peut vérifier pour sûr, c'est l'avis d'imposition. Oui. Et après, en plus de ça, on prend des documents supplémentaires. Donc ceux-là, on peut pas les vérifier. On peut les vérifier, mais c'est moins fiable. On n'est pas sûr à 100%. On peut s'assurer que c'est pas un faux en regardant, par exemple, dans des fiches de paie, qu'il n'y ait pas d'incohérence, de problématique dans les nombres, ce genre de choses-là. On le fait.
Parce qu'il y a beaucoup de locataires qui trafiquent un peu leur bulletin de paye. Hein. Enfin, moi, j'ai des amis qui l'ont fait il y a quelques années. Je le sais, voilà.
Mais parfois, il y a une frayeur des locataires, en fait. Parce qu'ils ont peur de ne pas réussir à louer un bien à cause de leur revenu, leur dossier. Ils essaient d'avoir le meilleur dossier. Ce qui est, en fait, c'est pas notre objectif d'avoir des personnes avec les meilleurs dossiers. On veut juste des personnes qui soient capables de payer leur loyer et de vivre correctement. Et on va pas, en fait, choisir le meilleur dossier. Donc, si on a plusieurs personnes qui sont intéressées par un bien, c'est la première personne qui se confirme par écrit vouloir louer le bien, qui le louera, tout simplement. On va pas faire de compétition.
Et puis, il y a une question de feeling aussi. Enfin, quand on... Vous voyez les locataires ?
Oui, absolument, on les voit. Alors, donc, une fois qu'on a vu le dossier et que ça s'est géré, on propose une visite physique au locataire. Donc, le propriétaire aurait la même chose à faire. Et lorsqu'il réalise cette visite physique-là, il faut qu'il discute avec la personne pour comprendre, vérifier qu'on est dans un cas assez normal et un cas standard. Et donc, il peut lui louer son bien, qu'il ait en face de lui quelqu'un qui va prendre soin du bien et qui va correctement payer son loyer, tout simplement. Donc, une vérification vraiment objective des revenus. Et du reste du dossier, et ensuite une discussion avec la personne sur place.
D'accord. On revient sur les chasseurs d'appartements. Là, on avait une question sur Instagram. Je n'ai pas trop le temps avec mon travail, mais nous devons changer de résidence principale avec ma femme, car on attend un deuxième enfant. Félicitations. Qu'est-ce que je gagne à faire appel à un chasseur d'appartements ?
Alors, comme je vous l'expliquais, en fait, le chasseur d'appartements s'adresse à des personnes qui n'ont pas le temps ou qui habitent pas sur place. Alors, c'est vrai que là, on a quand même beaucoup moins d'étrangers depuis, on va dire, 2-3 ans, notamment sur Paris. Mais en fait, typiquement, le couple parisien qui attend en plus un heureux événement à un enfant, avec les deux personnes qui travaillent à plein temps, ils n'ont pas le temps d'aller de visiter. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, puisque moi, j'ai créé Omnicom en 2003, c'est que un travail, en tout cas, efficace pour chercher un appartement, c'est un job à mi-temps. Donc, en fait, c'est au moins 4 heures de boulot par jour. Donc, vous imaginez, entre le transport... Alors, effectivement, avec le télétravail, c'est peut-être un petit peu plus facile, et encore. Identifier le bon produit, et surtout, on est très en amont sur les annonces. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de produits en off-market. On est très connu de la globalité des agences immobilières qui nous proposent les produits souvent avant de les mettre sur le marché.
Oui, d'accord. Oui. Donc, ils vous appellent, ils vous passent un coup de fil avant de les mettre en vitrine.
Exactement. Ils nous envoient un mail parce qu'ils savent qu'en fait, nos clients sont des vrais acheteurs, que ce ne sont pas des touristes.
Ils ne vont pas perdre de temps.
Ils ne vont pas perdre de temps, que le dossier, surtout financier, a été validé en amont. Et ça, c'est extrêmement important, surtout en ce moment, parce qu'il y a une petite incertitude vis-à-vis des banques. Alors, certes, les taux d'intérêt sont très bas, mais malheureusement, il y a quand même beaucoup de banques qui ne vont pas prêter. Alors
il y a une plus grosse sélection, en fait, des banques.
Exactement.
Déjà pour réguler les dossiers. Exactement. Et puis, du coup, comme ils ont le choix, ils prennent les meilleurs dossiers. Ça,
exactement.
C'est sûr, on en parle beaucoup dans d'autres émissions.
Ouais. Exactement. Et en plus, il y a un délai, enfin, rien que pour étudier le dossier, il y a un délai qui est très, très long. Enfin, tout à l'heure, je discutais avec un partenaire avec qui on travaille beaucoup de la CAFPI et qui nous disait une banque peut presque mettre un mois et demi avant d'ouvrir le dossier. Enfin, c'est juste...
C'est énorme.
Donc en fait, le chasseur d'appartement est là pour faire gagner du temps. Donc typiquement, un couple parisien avec les deux personnes qui travaillent, qui ont des horaires assez longues sur une journée de travail, n'ont pas le temps de tout lâcher pour aller visiter un appartement.
Et alors, après, vous proposez vos services pas seulement à des personnes qui souhaitent acheter une résidence principale, mais j'imagine aussi à des investisseurs.
Exactement. Alors, on fait aussi de l'investissement locatif.
Du coup, des Parisiens qui souhaitent investir en province,
exactement.
Vous êtes en province, et ils ont besoin d'un service.
Exactement.
Comme ça.
Ça, on le fait aussi. Donc, on fait résidence principale, investissement locatif et résidence secondaire. Et on fait aussi, alors beaucoup en ce moment, alors c'est pas notre cœur de métier, mais on fait typiquement pour un Parisien qui s'est aperçu qu'avec le télétravail, il avait envie de soleil, d'être dans le sud, etc., à Aix-en-Provence, on va l'aider dans un premier temps, par exemple, à louer une maison, un appartement, et ensuite...
Vous faites pour la location en premier ?
Oui.
D'accord,
on peut faire.
Pour tester, en fait, est-ce que la ville me plaît, est-ce
exactement.
Que le cadre me plaît.
Exactement, c'est quand même extrêmement important.
Ah, ça se fait beaucoup, ça, en ce moment.
Oui. Nous, en tout cas, c'est un service qu'on propose en plus. Alors, c'est pas notre cœur de métier, parce que notre cœur de métier, c'est vraiment la chasse d'appartements pour l'achat, sachant qu'on accompagne nos clients jusqu'à la vente définitive, c'est-à-dire jusqu'au jour où il aura les clés. Et après, au-delà, puisque dans l'équipe, il y a une de mes associées qui est architecte, qui s'occupe des travaux. Moi, quand j'ai lancé Omnicom, j'ai fait l'école boule en parallèle. Donc, quand on arrive dans un appartement, Si le client est partant pour faire des travaux, on voit exactement le potentiel et on sait où on va, quoi.
Oui, vous avez un œil d'expert, justement.
Exactement.
Justement, on parlera après parce que il y a une question là sur ce sujet là de quitter une grande ville pour aller vivre loin à la campagne au vert. Gaëtan, une question d'un auditeur. Comment choisir son assurance loyer impayé?
Ouais, c'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Alors, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une GLI, une garantie des loyers impayés.
Ce qu'il faut le dire, c'est mon point de vue, mais c'est primordial quand même d'avoir une assurance loyer impayé.
Pour avoir l'esprit tranquille, je dirais que oui. Alors, c'est proposé par des différents types d'entreprises privées. Les sociétés qui font de la gestion comme nous le proposent comme une option à part. Et en fait, pour choisir correctement une assurance loyer impayé, ce qui est souvent assez difficile, c'est qu'en fait, il va falloir analyser les différents critères. Donc, c'est un contrat d'assurance. Il y a des clauses à respecter pour pouvoir en bénéficier. Donc, il faut regarder quelles sont les clauses d'exclusion. Et ensuite, il faut regarder quels sont les critères de remboursement dans le cas où il y a un incident. À partir de quand est-ce qu'ils vont commencer à rembourser? Pendant combien de temps ils vont continuer de rembourser? Est-ce qu'il y a une franchise? Enfin, il y a différents critères à prendre en considération. Et toutes les sociétés n'ont pas forcément les mêmes critères. Et donc, ça peut être assez laborieux. Et donc, c'est pour ça que, du coup, chez Bernie, à la genèse du projet, on a voulu proposer une solution à revenu garanti. Qui soit simple à comprendre. Nous, le revenu est garanti, quoi qu'il arrive, c'est pas un contrat d'assurance.
C'est vous le bailleur, donc il n'y a même pas de question à se poser, en fait. Y a
c'est nous, le locataire, absolument. Et donc, du coup, le propriétaire est certain qu'on va payer le loyer. Il n'y a pas toutes ces clauses.
Voilà. Et excusez-moi, vous êtes que sur Paris ou vous êtes aussi en province?
Aujourd'hui, on est en Île-de-France, en Seine-Maritime, et on va bientôt ouvrir des bureaux à Brest, Lille, Lyon et Nice.
D'accord.
Voilà. Ça se développe, hein.
Ça se développe bien, oui.
C'est tant mieux. Oui, du coup, on parlait de quitter Paris. Un auditeur nous dit « Je suis née à Paris, j'y ai toujours vécu, mais depuis le confinement, j'ai envie de m'installer dans une plus petite ville. Est-ce une bêtise de le faire? Est-ce que c'est un mouvement de foule ou, à votre avis, Christine Felos ?»
Alors, nous, ce qu'on voit, en tout cas, c'est surtout une explosion des prix dans des villes comme Nantes, Lyon, même en Normandie. Alors en Normandie, c'est plutôt sur de la résidence secondaire, mais les prix ont augmenté de plus 10 à plus 20% sur certains biens.
Ouais.
Exactement, notamment tout ce qui est autour de Deauville, Trouville, etc. Ouais. C'est complètement dingue. Et là, en fait, il y a zéro stock, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de produit à la vente. Donc il y a une demande... en gros, il y a une augmentation de la demande qui doit être de plus 70%.
Dans les petites villes aussi, moi, par exemple, Annecy.
Non, à Caen, par exemple, Caen, Caen, etc. Alors, Annecy, je ne connais pas parce qu'on n'est pas du tout implanté à Annecy. Mais par exemple, des villes comme Caen, où la demande explose alors que l'offre stagne ou presque.
Aix-en-Provence aussi.
Aix-en-Provence, c'est pareil. Donc, un prix au mètre carré qui a tendance à monter, parce que vous imaginez, plus 10 à plus 20%. Ouais. Alors, effectivement, on en discutait tout à l'heure puisqu'on avait une réunion d'équipe. Ça pose certains problème. Par exemple, en Bretagne, certains locaux commencent à dire tous ces gens qui arrivent, le marché qui augmente de plus 10, plus 15, plus 20%, etc.
C'est pas forcément bon pour eux.
C'est pas forcément bon pour eux. Mais après, ce dont on s'aperçoit, en fait, à partir du moment où on a une bonne liaison, parce qu'il y a une loi en immobilier, quelle qu'elle soit, et quelle que soit la ville à Paris, en province, etc., c'est la localisation. Donc, à partir du moment où vous avez une bonne ligne de TGV, et ça, on le conseille, en tout cas, plus que l'avion, puisque en plus, certaines lignes d'avion vont être
supprimées,
à disparaître dans les quelques années à venir. Donc, à partir du moment où vous avez une bonne liaison en TGV et pas trop loin de Paris, oui, c'est effectivement des possibilités à étudier. Et je vous dis, nous, la demande qu'on a... En tout cas, pour la résidence secondaire, c'est bien évidemment tout ce qui va être Normandie, le Perche, puisque c'est très accessible de Paris. Et après,
résidence principale,
c'est beaucoup de gens qui partent dans des villes qui sont très dynamiques, comme Nantes, Lille... Aix-en-Provence,
c'est vrai que Nantes,
Marseille.
C'est très demandé. Hein. Personnellement, je connais des Parisiens qui sont allés s'installer à Nantes et qui en sont très contents, surtout quand ils commencent à avoir des enfants, vie de famille, c'est beaucoup plus agréable.
Il y a plein de start-up, c'est une ville qui est super dynamique. Ouais. Lyon, c'est pareil, mais sauf que Lyon, on connaît déjà, ça c'est... La ligne de TGV à 2 heures existe depuis longtemps, mais on est à 2 heures des montagnes, 3 heures de la mer, donc c'est une ville qui est extrêmement agréable. Mais là, le prix au mètre carré est aussi très cher. Il a augmenté de plus 10%, oui, oui. Je crois plus 15% à Villeurbanne ou enfin dans certaines villes. Limitrophe de Lyon, on voit vraiment un nombre d'acheteurs conséquent.
Gaëtan, question sur un investissement locatif. Je travaille beaucoup, je suis souvent en déplacement. Est-ce compatible avec un investissement locatif en termes de temps dépensé et d'énergie?
Ouais, c'est un peu similaire à ce que disait tout à l'heure Christine. Ça prend du temps de gérer correctement un investissement locatif. Si on est à l'étranger et qu'on le fait seul, à ce moment-là, il va falloir à un moment se débrouiller pour revenir, pour mettre le bien en location, pour réaliser des visites, pour choisir les bonnes personnes. Ensuite, une fois que les personnes sont dans le bien, il faut gérer le bien. Ça se peut pas tout seul, il peut y avoir des problématiques, et les problématiques, elles sont inattendues. Ça arrive du jour au lendemain.
Qui nous lâche un dimanche soir.
Ouais, alors on a beaucoup de dégâts des eaux. Je pense que ça représente quelque chose comme 70%.
Mais ça, c'est énorme. Je crois que tout le monde a déjà eu un dégât des eaux dans sa vie, au moins. En tant que propriétaire ou locataire?
Je pense, ouais. Mais bon, alors tout le monde, ça dépend. On a des personnes qui sont assez jeunes aussi dans nos locataires. Et du coup, qui se trouvent parfois un peu désemparés. Et même des personnes qui ont déjà vécu un dégât des eaux, il y a différents types de dégâts des eaux. Il y a ceux qui viennent de la copropriété, ceux qui viennent de l'appartement du dessus, mais la personne n'est pas là. Enfin, donc on, en tant que gestionnaire, c'est des choses qu'on gère. On aide nos locataires, parce qu'on considère que c'est nos clients au même titre que nos propriétaires. Et donc on les aide à s'en sortir le plus vite possible pour pouvoir vivre correctement. Et donc si jamais on est propriétaire à distance et qu'on s'appuie pas sur une aide locale, ça risque d'être plus compliqué, et il va falloir être capable de prendre du temps libre pour gérer ce genre de soucis. En fait, le fait de faire appel à un professionnel de l'immobilier pour gérer son bien, je pense que c'est de la tranquillité d'esprit. Et quand on est un investisseur, c'est aussi la capacité de passer à un autre projet. C'est-à-dire qu'on a investi, on connaît son rendement, on sait comment ça va se passer. On a pris en compte le coût de gestion dans le business plan. Et ensuite, on laisse ça en gestion, on n'entend quasiment plus parler, en fait, et on peut se concentrer sur d'autres projets, ce qui est, d'un point de vue financier, plus intéressant.
Oui, parce qu'en fait, on gagne du temps, on gagne de l'argent au final. Enfin, c'est de la tranquillité, comme vous dites. Christine Pelos, on parlait justement tout à l'heure des résidences secondaires. Alors, une question qui revient souvent en ce moment: je ne trouve pas de maison de campagne à côté de Paris depuis plusieurs mois, est-ce normal? Alors, vous disiez qu'il y avait beaucoup de demandes. Il n'y en a plus ?
C'est tout à fait normal, puisqu'en fait, tout le stock a été vendu, même les invendus depuis 2-3 ans. En tout cas, quand on discute avec les agences immobilières qui, elles-mêmes, n'en reviennent pas, en disant, dès qu'on a un bon produit qui rentre, de toute façon, il est vendu à la première visite. Et c'est là où c'est très important d'être les premiers à visiter et d'être très disponible. Mais il n'y a pas de stock.
Il n'y a plus de stock.
Il n'y a plus de stock. Et effectivement, dans les environs, comme vous le disiez,
Normandie,
Paris,
tout
ce qui va être Rambouillet, etc., forêt de Rambouillet, la Normandie est très accessible aussi. Alors,
c'est très à la mode, la Normandie.
Exactement. C'est sûr qu'il n'y a pas de stock, donc obligatoirement, ce qui explique que les prix augmentent aussi.
Et du coup, il n'y a pas de stock, mais alors il faudra attendre combien de temps pour quelqu'un qui veut acheter une...
Après, on sort de cette troisième vague de confinement, la vie va reprendre son cours, etc. Effectivement, il y a pas mal de sociétés qui vont continuer à fonctionner en télétravail en partie, donc on va voir. Mais après, il faut aussi se dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis en se disant on va s'installer en Bretagne, etc., qui n'ont jamais vécu l'hiver en Bretagne. Et qui, à mon avis, vont aussi peut-être déchanter. C'est-à-dire que c'est pas non plus le cinéma, vous l'avez pas en bas de chez vous, le petit café du matin que vous aimez bien à Paris, c'est pas ça. Le restaurant à 21h, il n'y a plus rien. Donc voilà. Donc il faut que ça corresponde effectivement pas à toutes les personnes. Et quand on a eu l'habitude de vivre dans les grandes villes avec un service, et c'est sûr que quand on se retrouve dans une petite ville. Je ne parle pas des grandes villes comme Lyon, Bordeaux, etc.
Oui, parce que c'est un peu comme Paris.
Voilà.
Mais c'est vrai qu'en Bretagne,
c'est sûr que ça peut faire un choc.
Bien sûr.
à l'arrivée de l'hiver. On verra.
Bah, on s'en rend pas compte, mais c'est vrai qu'on a l'habitude finalement. Moi, je vis à Paris et il y a quelques semaines, j'étais en Bretagne et c'est vrai qu'il n'y avait pas une pizzeria qui était ouverte le soir. après 19h, je me suis dit, ah oui, on peut pas se faire livrer. En fait, on pouvait pas se faire livrer. C'est tout bête, mais dans les grandes villes, on s'habitue quand même à un certain confort qu'on n'a pas en fait dans certaines régions de France. Hein. Et on a tendance à l'oublier. Gaëtan, vos clients, est-ce que ça leur arrive de, donc vous êtes locataire, vous venez de locataire de vos clients. Est-ce que parfois ça leur arrive de vouloir mettre une résidence secondaire en fait en location? Ils décident finalement.
On n'a pas souvent ce cas-là. J'étais en train de réfléchir. On a des personnes qui avaient un pied-à-terre à Paris. Ils avaient la chance d'avoir un pied-à-terre à Paris. C'était l'inverse. Ils travaillaient, résidaient en province. Et ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus vraiment besoin du pied-à-terre. Ils y allaient plus souvent. Il y a eu une crise sanitaire. Ils ne pouvaient pas se déplacer. Et donc, on a pris sous gestion ces appartements-là. Par contre, des résidences de vacances... on n'en a pas eu pour l'instant à gérer, mais c'est aussi compréhensible parce que en fait aujourd'hui on est en Île-de-France, en Seine-Maritime, comme je disais tout à l'heure, on va ouvrir bientôt à Brest, Lyon, Lille et Nice, et du coup on a finalement on a peu de biens sous gestion en province pour l'instant, donc c'est peut-être normal qu'on n'ait pas encore rencontré énormément ce cas de figure là.
D'accord. Et une personne demandait si elle pouvait mettre son bien en location si elle est mutée à l'étranger. C'est possible ça ?
Oui, absolument. En fait, on a plusieurs propriétaires qui sont à l'étranger, qui ont été mutés à l'étranger ou qui nous ont appelés, qui étaient déjà à l'étranger. Et on a l'habitude, en fait, chez Bernie, on est très digital.
Vous avez une plateforme ?
On a une plateforme qui s'appelle bernie.re, depuis laquelle il est possible de transmettre toutes les informations sur un bien. Et à partir de là, on va réceptionner l'ensemble. On est capable de lancer le processus, de réaliser une visite virtuelle du bien, de signer les contrats à distance en ligne. Ça se fait directement par mail. On envoie un lien de signature par email et on peut signer les contrats de location. Donc on a des propriétaires qui habitent un peu partout, aux États-Unis, au Maroc, en Angleterre. Ça pose pas de problématique.
D'accord, c'est possible.
Je pense que c'est même mieux pour eux parce que je vois pas comment ils feraient en fait.
Ouais, c'est impossible. J'imagine que c'est possible. Est-ce que c'est une bonne idée, Christine Pelos, d'investir dans une résidence secondaire?
Alors,
parce que la personne après expliquait, du coup, on finit un peu les vacances, on part toujours au même endroit. Alors, est-ce que ça vaut le coup ou pas finalement?
Alors, il faut être très vigilant quand on achète une résidence secondaire, parce que c'est pas uniquement le prix d'achat, mais c'est surtout le coût de fonctionnement de la résidence secondaire. C'est-à-dire que obligatoirement, vous avez du terrain, donc il faut prévoir vous occuper du jardin, des arbres, l'élagage des arbres, etc. La taxe foncière qui est beaucoup plus importante qu'à Paris, parce qu'à Paris, on a la chance de payer une taxe qui est moins importante, plein de frais annexes qui vont venir en fait gréver votre budget annuel et auquel vous n'avez pas forcément pensé. Donc une tuile qui s'envole parce qu'il y a une tempête et puis vous l'avez pas vue, puis finalement il y a une fuite
d'eau, des eaux,
un dégât des eaux, voilà, dont on parlait tout à l'heure. Ce que les gens oublient très souvent, c'est que l'achat de la résidence secondaire, c'est pas uniquement le jour où on signe chez le notaire. Après, il faut penser...
C'est un entretien.
Exactement. Il faut pouvoir l'entretenir au quotidien, faire face aux travaux. Et bien évidemment, quand on n'y habite pas au quotidien, on s'en rend compte, une maison s'abîme beaucoup plus vite.
Ah oui ?
Donc, oui. Ouais. Oui, oui. Et autre chose à laquelle il faut penser, c'est aussi les trajets. Donc ça aussi, ça s'intègre parce que, par exemple, beaucoup de personnes de Parisiens qui partent, qui veulent s'installer ou deux ou trois jours par semaine travailler en province, il faut aussi calculer dans le budget le coût du transport, du train, etc. Et le train et le TGV notamment, et pas souvent bon marché. Donc il faut intégrer tout ça dans le budget de fonctionnement.
Et ça, vous le dites aux clients qui viennent vous voir et qui vous disent on aimerait bien acheter une résidence secondaire. Vous les prévenez ?
On les prévient surtout sur les travaux, en fait. Ouais. Parce que souvent, la personne nous dit c'est bon, un coup de peinture, etc. Non, c'est pas un coup de peinture, parce que l'électricité, le tableau, est pas aux normes. Donc, vous allez mettre une machine à laver, un lave-vaisselle, ça va disjoncter. Il faut quand même que ça soit un certain confort et il faut pas.
Mais c'est un investissement en fait. C'est un réel investissement.
Exactement. Il faut pas minorer les travaux parce qu'ils sont souvent même plus importants que dans une résidence principale à Paris où quand vous êtes dans un appartement, vous êtes chauffé au-dessus, en dessous, etc. Ouais. Alors que là, la maison est humide. Il peut y avoir des travaux qui sont importants. Donc nous, on prévient toujours de. Attention, on visite la maison, mais il faut prévoir un budget de 100 000 euros, 150 000 euros, etc. Et l'autre chose qui est aussi importante et dont il faut tenir compte en province, c'est que les travaux, vous n'allez pas chez Castorama en bas de chez vous acheter votre pot de peinture ou votre paroi de douche.
J'imagine. Donc, il faut prévoir. C'est plus compliqué.
Tout est un petit peu plus compliqué.
Et ça, vous le voyez, alors vous avez une architecte, vous le disiez, vous voyez les travaux qu'il y a à faire en fonction de ce que veulent les clients. Vous pouvez leur dire à peu près, voilà, il faudra tant prévoir une enveloppe de temps de travaux.
Exactement. Et ensuite, un délai surtout de réalisation des travaux. Oui. Et on est très réaliste sur l'enveloppe, sur le coût.
Pas de mauvaise surprise.
Des travaux, c'est pas de mauvaise surprise. L'idée, c'est toujours ce qu'on dit à nos clients. L'idée, c'est que vous achetiez un appartement, que vous soyez heureux, que nous, on soit heureux de vous voir bien, mais vous achetez pas un appartement pour manger des pâtes où il faut aussi profiter de la vie et profiter des terrasses et des restaurants comme on a la joie de le faire depuis quelques jours.
C'est vrai. Gaëtan, vous parliez tout à l'heure de votre plateforme. Alors pour les gens à l'étranger, mais je suppose que ça marche aussi pour les gens en France ou à côté de chez vous. Une personne nous demande si je dois faire appel à une agence pour une gestion locative, chose que je compte faire. Est-ce que je devrais me rendre souvent à l'agence ? Moi, je pense que ça dépend, mais chez vous, par exemple.
Ouais, ça dépend. Alors, chez nous, on est très digital.
Ouais. Ça, c'est un plus, j'imagine. De toute façon, depuis le confinement, on est un peu obligé de s'y mettre.
Ouais, c'est ça. On est plus dans cet état d'esprit de start-up un petit peu innovante, on va dire. Et donc, on a pas mal de personnes chez nous qui sont des ingénieurs en développement logiciel à la base. Donc, ils font du logiciel. Et du coup, on a une plateforme qui fonctionne très bien et qui permet d'éviter d'avoir à se déplacer trop régulièrement, qui nous permet, nous aussi, par exemple, d'éviter d'avoir à faire trop de visites physiques. On peut même permettre d'abord aux personnes de visiter les appartements virtuellement avant d'aller faire une visite physique. Et donc, ça nous fait gagner du temps, ça nous permet de raccourcir les durées de vacances locatives. Donc, on met vraiment l'accent sur la partie digitale. Et donc, normalement, Le nombre de déplacements et le fait de nous visiter en agence, c'est plutôt rare. C'est vraiment très rare que les propriétaires.
Il y a la remise des clés, physique, forcément.
En fait, c'est le seul point aujourd'hui qui est vraiment. Enfin, il y a deux points. Il y a la remise des clés et il y a l'état des lieux d'entrée. Oui. Qui doit être fait sur place. Donc, il faut qu'à un moment, on voit l'appartement.
En Zoom, c'est compliqué quand même.
C'est légal, en fait. Ouais. C'est une obligation légale.
Ouais. Mais ça, je peux comprendre, parce qu'on ne voit pas forcément une petite fissure ou...
Ouais, aujourd'hui, c'est comme ça. Bon, après, donc, du coup, c'est les deux points. Mais pour le propriétaire, il n'y en a vraiment qu'un qui est obligatoire. C'est de nous remettre les clés. On peut se débrouiller. Il peut envoyer quelqu'un, on peut aller les chercher. Enfin, il y a plein de solutions possibles.
D'accord, donc on se rend sur votre site internet et je ne vous ai pas demandé quand vous signez, quand vous devenez locataire d'un propriétaire, c'est des baux de combien de temps ?
Locataire, c'est un an minimum, parce qu'on fait de la location de longue durée uniquement, on fait pas de courte durée, on fait pas de location à vocation touristique, on fait vraiment que du résidentiel longue durée, de l'habitation principale. Et du coup, voilà, on prend des contrats d'un an minimum avec le propriétaire et ensuite, il peut résilier très facilement le contrat après cette année-là, si jamais il souhaite récupérer le bien.
Oui, s'il veut le donner à un de ses amis, le mettre en location à un de ses amis, etc. Voilà. D'accord. Et vous, après, une fois que vous êtes locataire de l'appartement, les autres locataires que vous trouvez, en fait, c'est comme si c'est comme une sous-location, c'est des baux de combien de temps ?
Alors, c'est très encadré en France. Il y a une loi qui s'appelle la loi Allure, qui encadre les baux de location. Et donc, c'est une durée minimale d'un an pour des biens meublés. Pour des personnes qui ne sont pas étudiantes, et 9 mois pour des personnes qui sont étudiantes.
D'accord.
Voilà.
Donc, vous faites...
Et donc, on suit la loi Allure. Donc, si jamais on a un meublé à louer à un étudiant, ce sera minimum de 9 mois pour lui.
D'accord, très bien. Cette émission touche à sa fin. Alors, Christine Pelos, je rappelle que vous êtes fondatrice et gérante de Home Like Home. Donc, si on a un appartement, on cherche un appartement, une résidence secondaire, un investissement, avant de la mettre en gestion locative chez Bernie, on fait appel à vous. Donc, vous avez un site internet.
Alors,
on peut se rendre
sur... On a un site internet, homelikehome.com. Et effectivement, vous parliez de digitalisation. Nous, tout le service est fait aussi. On se déplace. La personne ne se déplace pas puisqu'en fait, elle voit tous les comptes rendus de visite à travers un blog qu'on lui crée spécifiquement.
Et, c'est à chaque personne, à chaque client.
Chaque client a son propre blog. D'accord. Avec tous les comptes rendus de visite qui sont postés, avec les photos, les points négatifs. Ce que je vous disais, on ne se met pas debout sur la cuvette des toilettes pour voir la Tour Eiffel, par exemple. et ensuite, le mandat est bien entendu signé en amont en signature électronique. Le cahier des charges est fait aussi. Tout est virtuel, sauf, et même nous, on signe pour certains clients à leur place chez le notaire, en fait.
D'accord.
Ah oui, oui, c'est vraiment... obligatoirement, le client se rend à un moment donné pour valider, en fait, l'offre et l'achat. Mais effectivement, pour certaines personnes,
vous faites tout, quoi. Ils n'ont pas envie de se déplacer.
Exactement. Donc, homelikehome.com.
Très bien. Donc, une agence à Paris, Grand Paris. Maintenant, vous êtes à Aix-en-Provence, Bordeaux, Lyon, Lille, Marseille, Nantes, Normandie et Le Perche. Et puis, vous, Gaëtan Matet, donc cofondateur de Bernie, qui est une agence immobilière qui propose une offre de gestion locative à revenus garantis. Île-de-France, Rouen, à partir de septembre, Lille, Lyon et Nice.
Absolument.
Votre site internet, c'est bernie.re.
Voilà.
Parfait. Eh bien, merci beaucoup
à vous deux d'avoir
répondu aux questions de nos auditeurs. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Allô Radio Immo.
Allô Radio Immo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.immo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.